Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3,
c'est fac.
Ça part ici.
Moi, d'une part, puis j'ai toujours été très transparente là-dessus, je suis un peu déçue que quand on parle de la déconnexion entre l'offre et la demande au Québec, dans l'espace public, on parle juste d'immigration, puis qu'on parle pas d'à quel point les jeunes de notre génération ne peuvent pas devenir propriétaires parce que les maisons sont devenues trop chères. Donc, c'est pour ça qu'on va rester locataire longtemps.
Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau balado des attachés de presse. Ici votre animateur, Renaud Duval, accompagné aujourd'hui de deux étudiants d'École de politique appliquée, Léopold Messina.
Allô.
Allô, Léopold a déjà fait de la radio avec nous un petit peu, mais c'est ton premier balado, n'est-ce pas?
Exactement.
Et Cédric Lavallée, donc toi c'est ta première fois radio balado.
Exactement.
Donc merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour ce sujet qui portera sur le logement, l'habitation, avec notre invitée Alexandrine Beaufel-Amoureux. Bonjour.
Salut.
Merci, merci d'être avec nous, Alexandrine. Je vais lancer tout de suite le bal en te passant la parole pour nous dire un peu qui t'es, d'où tu viens, comment tu t'es intéressée à la crise du logement et comment tu t'y intéresses.
Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis une étudiante de l'UQAM. Je dois avouer tout de suite, c'était ma première fois à Sherbrooke. Donc, j'expose tout de suite mes couleurs un peu montréalocentristes. Mais je vous jure, j'essaie de diversifier les endroits que je visite pour ne pas faire ma compréhension du Québec. Initialement, j'ai fait un bac en relations internationales et droit international à l'UQAM, qui s'avère être aussi le bac que Catherine Dorion a complété. Donc, une grande lignée de femmes qui vont à l'UQAM dans ce programme de premier cycle. Durant mon bac, en fait, j'ai occupé un emploi étudiant au tribunal administratif du logement, donc la nouvelle mouture de la régie du logement, au sein du service de la conciliation. Donc, le service de la conciliation, c'est pour les gens qui souhaitent régler à l'amiable, avant d'aller devant un juge, un dossier qui concerne un bail de location. Donc, ça peut autant être deux propriétaires qui sont contre pour une demande, un propriétaire contre un locataire, ou deux locataires qui sont contre aussi, dans le cas où c'était des colocataires, par exemple, puis il y a des enjeux d'argent, etc. Et dans le cadre de mon emploi, j'ai vraiment pu réaliser aux premières loges à quel point il y avait une inéquité d'accès à l'information en lien avec le droit au logement entre les locataires et les propriétaires. On s'entend, c'est assez logique. À partir du moment où la majorité des locataires sont locataires par défaut de ne pas pouvoir s'acheter une propriété, il y a une réalité économique qui suit les deux catégories, propriétaires et locataires. Puis ben, quand tu as moins d'argent, inévitablement, tu as moins d'argent pour te payer des avocats pour t'expliquer c'est quoi le droit au logement. Donc, face à ce constat-là, j'ai proposé au TAL de démarrer un projet de vulgarisation.
TAL étant un tribunal administratif du logement?
Oui, exact. Okay. C'est son petit nickname, mais merci pour la clarification. Fait que, en gros, j'ai proposé au TAL de partir un projet de vulgarisation juridique en droit du logement qui serait sur les médias sociaux. Parce que selon moi, quand tu veux t'adresser à une population, ben, faut que tu ailles là où elle est. Faut pas que tu t'attendes à ce qu'ils te rejoignent le toit où tu es. Puis, mais en tant que jeune, on le sait, une de nos principales sources d'information, c'est les médias sociaux. Fait que je me suis dit que ça pourrait être pertinent de commencer à publier des infographies sur les médias sociaux qui viennent vulgariser certains éléments en lien avec le logement, que ce soit le fonctionnement d'un formulaire de bail, comment ça fonctionne les hausses de loyer, comment est-ce que tu fais en tant que locataire pour protéger tes droits, par exemple. Puis le TAL a accepté. Fait que ce projet-là a été démarré en 2022. Puis par la suite, moi, je suis partie en échange étudiant, donc j'ai quitté mon emploi, mais j'ai été super heureuse d'apprendre que ça s'est pérennisé dans le budget du TAL. Donc encore aujourd'hui, il y a des employés en communication au TAL maintenant qui produisent ces infographies-là. Mais je dirais que c'est vraiment cet événement-là qui a cristallisé mon intérêt pour l'habitation. Puis, c'est la raison pour laquelle, en revenant d'échange, quand je me cherchais un emploi, parce que j'ai pris une petite année sabbatique d'études avant de commencer ma maîtrise, je voulais vraiment trouver un emploi en lien avec le domaine de l'habitation. parce qu'on le voit, tu sais, la crise du logement, c'est le sujet de l'heure dans tous les médias. C'est quelque chose qui affecte directement la qualité de vie de plein de Québécois et de Québécoises. Tu sais, le fait qu'il y ait une perte de l'abordabilité de la qualité des logements sur le marché. Puis j'ai trouvé un emploi au sein d'un think tank en habitation chez Vivre en Ville. Puis c'est vraiment là où je me suis davantage familiarisée avec comment ça se fait qu'au Québec, on n'est même pas capable d'appliquer nos propres lois en matière de protection des locataires. Puis c'est suite à ces recherches-là, puis à mon épanouissement, si je peux dire, genre dans mes fonctions professionnelles, que j'ai réalisé à quel point l'habitation, c'était central avec plein d'éléments cruciaux de notre quotidien. T'sais, l'habitation, c'est lié à ce qu'on mange dans la vie en fonction de ben, c'est quoi les produits alimentaires à proximité qu'on peut acheter pour avoir sur notre table. C'est lié au transport. Le chemin que tu prends de chez vous jusqu'à la job, jusqu'à l'école, ben, ça part de chez vous. T'sais. Fait que l'habitation est liée à ça aussi. Mais ça se transpose aussi à plein d'enjeux économiques. Mmh. T'sais, mettons, on l'a vu, les dernières crises économiques depuis le début du 21e siècle provenaient ultimement d'une crise de l'immobilier. T'sais.
Ouais.
Fait que pour comprendre, c'est ça. C'est pour comprendre toutes les crises que notre époque traverse. À mon sens, il faut comprendre l'habitation. Puis c'est pour ça que j'ai vraiment développé un intérêt de recherche là-dessus. Puis que dans le cadre de la maîtrise que je vais entamer en septembre en santé publique, ben, je m'intéresse au logement comme étant un fondement social de la santé publique. Puis comment est-ce qu'au Québec, on pourrait faire en sorte que ce fondement-là soit mieux rempli pour l'entièreté de la population.
Quand tu faisais référence tantôt à des lois qu'on réussit pas à mettre en œuvre concrètement, est-ce que tu fais ici référence au registre des loyers?
Entre autres, okay. Ouais.
C'est quoi en gros le registre des loyers?
Bonne question. Question large, en fait. Le registre des loyers, ce à quoi la mouture qui est présentement disponible quand tu tapes registre-des-loyers.com et que tu vas sur le site Internet, c'est ce qu'on appelle une base de données ouverte axée sur la participation citoyenne. Donc, ça veut dire que n'importe qui, locataire ou propriétaire, peut venir indiquer le montant qu'il paye pour son loyer présentement, donc c'est des logements déjà en location, puis que ce soit affiché sur une carte interactive et disponible gratuitement à tout le monde. Par contre, l'objectif d'avoir créé cette innovation technologique-là, c'est ultimement que cet outil-là soit adopté par le gouvernement du Québec, puis que ce soit le gouvernement du Québec qui indique les informations sur le registre des loyers. Donc, de cette manière-là, on pourrait être sûr à 100% de la véracité des informations qui sont indiquées. Parce que malheureusement, qui dit participation volontaire dit qu'il n'y a pas de vérification sur si c'est vraiment le prix payé ou pas.
Donc, dans le fond, la loi a obligé la création du registre, mais ne l'a pas rendu obligatoire?
En fait, non. C'est là où ça devient un peu complexe. la loi au Québec, en fait, l'article 1950 du Code civil du Québec, lui, il prescrit que les locataires ont un recours devant le tribunal administratif du logement s'ils réalisent que le loyer qui est demandé par le propriétaire au moment où ils ont signé le bail, était disproportionnellement plus élevé que le loyer payé par l'ancien locataire. Fait que les locataires, lorsqu'ils réalisent qu'il y a une hausse abusive entre eux et les derniers locataires, ils peuvent ouvrir une demande au TAL pour demander au TAL de fixer un nouveau montant de loyer à la baisse pour éviter qu'il y ait des hausses abusives. Par contre, le problème avec cette loi-là, c'est que elle ne réussit pas vraiment à mettre en application l'intention de la loi. Ce que je veux dire par là, c'est que la raison pour laquelle genre, cet article de loi-là a été créé, c'est suite à une réflexion de ben, quel montant d'argent est-ce que c'est légitime qu'une personne fasse sur un besoin fondamental?
Soit la manière de le savoir, logement. Ce serait d'avoir un registre des loyers qui montre la moyenne des bails, des baux, tout ça.
Dans un sens, mais en fait, un registre des loyers, ce que ça permettrait, c'est que dans un contexte comme en ce moment de crise du logement, donc où les prix des loyers sur le marché sont déconnectés du prix des logements qui sont présentement alloués, quand toi, tu es un propriétaire, que tu sois une compagnie ou un individu, puis ton but, c'est de faire le plus d'argent possible, puis que tu vois que les logements qui sont présentement sur le marché sont beaucoup plus élevés que les logements désalloués, bien, pour faire le plus d'argent possible, tu as tout intérêt à expulser tous tes locataires puis à remettre ton logement sur le marché. Mais à partir du moment où tu dis que ben, un des rôles des lois en droit du logement, c'est de protéger les locataires qui ne se fassent pas expulser, mais il faut que tu fasses quelque chose pour éviter que l'intérêt économique des propriétaires soit mieux servi en expulsant tous les locataires actuels, tu sais. Puis c'est là où le registre des loyers rentre en compte. C'est qu'en ce moment, mettons que tu as un propriétaire qui loue un logement, c'est normal que le prix du loyer augmente année après année. Tu sais, le coût de la vie augmente, les revenus augmentent, il y a l'inflation. Évidemment que c'est normal aussi que le prix des loyers augmente. Par contre, là, ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'il y a une déconnexion entre l'augmentation des revenus, entre l'inflation et entre l'augmentation du prix des loyers. Puis ça, c'est entre autres explicable à cause du phénomène de rareté, où il y a plus de demandes pour de logements locatifs qu'il y a d'offres présentement sur le marché. Fait que c'est là où, bien évidemment, les gens qui détiennent entre leurs mains le besoin, qui est le logement, ont le gros bout du bâton, puis peuvent décider de fixer un prix parfois absurde. Puis les gens, vu que ben, t'as pas le choix d'avoir un toit sur ta tête si tu veux participer à la vie en société, mais ils vont être prêts à faire des sacrifices financiers immenses, que ce soit d'investir 70 % de leur revenu mensuel, par exemple, dans leur loyer, mais pour pouvoir avoir un toit sur leur tête. Mm-hmm. Mais un registre des loyers, en fait, ce que ça permettrait, c'est de fournir une source d'information impartiale à tous les locataires où ils pourraient aller vérifier c'est quoi le prix du loyer qu'ils louent qui était payé par les anciens locataires. Parce qu'en ce moment, là encore, le mécanisme dont le Québec s'est doté pour appliquer le principe de la loi, c'est la clause G. Fait que c'est une petite section dans le formulaire de bail où les propriétaires sont supposément obligés d'indiquer, quand c'est un logement que ça fait plus de 5 ans qu'il a été construit, le montant payé par les anciens locataires. Sauf qu'il y a une étude qui a été faite sur le marché locatif par la firme Léger qui s'est avérée être la plus grande étude jamais effectuée sur le marché locatif qui a démontré que 8 locataires sur 10 ne sait pas le montant payé par les anciens locataires. Fait que déjà là, tu réalises qu'il y a un problème avec le mécanisme dont tu t'es doté. T'sais, étape numéro 1. Puis étape numéro 2, là, même si, mettons, 100 % des propriétaires remplissaient la clause G, s'il y a personne qui vérifie que l'information indiquée est vraie, moi, si je suis un propriétaire, puis mon but, on s'entend, vu que j'ai investi dans un immeuble locatif, c'est de faire de l'argent, c'est logique, bien, j'ai tout intérêt à indiquer le mauvais montant. Donc, sans source d'information impartiale, où les locataires peuvent venir corroborer cette information-là, on se retrouve dans un déséquilibre total où il y a une hyperinflation du prix des loyers sur le marché, parce que pour servir l'intérêt de faire le plus d'argent possible, c'est ce que le marché permet. Genre.
Mm-hmm. Puis même là, ça ne va pas avec les principes fondamentaux de la théorie du capitalisme, de la contractualité où on a une égalité dans les informations. En ce moment, il y a un déficit d'informations chez les locataires et une grosse marge de manœuvre sur l'information puis le degré à quel point elle est fiable chez les propriétaires.
Mais ça, c'est très intéressant à nommer parce que, tu sais, il y a des prix Nobel de l'économie qui ont été gagnés là-dessus dans les dernières années. Comment est-ce que, dans un marché où c'est pas tout le monde qui a accès à la même information, les consommateurs sont systématiquement désavantagés? Puis en ce moment, c'est ce qu'on voit. Les consommateurs du marché locatif, c'est les locataires. Les locataires, s'ils n'ont pas accès à une information dont les propriétaires ont accès, bien, leurs décisions sont pas lucides et éclairées. Mm-hmm. Parce qu'ils ne prennent pas leurs décisions en fonction de l'entièreté des produits qui sont présentement disponibles sur le marché. Mm-hmm. Puis là-dessus aussi, juste sur le plan des relations locataires-propriétaires. Tu sais, mettons, moi, je vis dans un logement avec un propriétaire occupant. Mon propriétaire, je veux une bonne relation avec. Le système actuel où on demande aux locataires de signer un contrat, puis quoi, 3 jours plus tard, d'ouvrir un dossier au tribunal administratif du logement pour remettre en question le prix auquel ils ont signé le contrat, ça fonctionne pas, ça met une pression immense sur les épaules des locataires. Puis tu sais, tu le sais pas à quel point ces locataires-là aussi sont dans une situation précaire. Mm-hmm. Si moi, mettons, je sais pas, je suis une mère monoparentale qui vient de sortir d'une situation de violence conjugale avec mon enfant, je viens finalement de trouver un logement alors qu'il y en a vraiment pas beaucoup disponible, je réalise que le prix que je paye pour mon loyer, ben, ça subit une hausse abusive entre deux locataires, je vais pas aller ouvrir un dossier au TAL et risquer de mettre en péril la stabilité que je viens de réussir à obtenir. Mm-hmm. Fait que le système en ce moment, il ne fonctionne pas. Puis malheureusement, j'aurais espéré que le projet de loi 31 vienne répondre à ces lacunes-là, mais je pense malheureusement pas que ça ait été le cas.
Oui, et parlant justement des gouvernements, on peut parler du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral qui s'investissent dans la question, mais on dirait que, en tout cas selon ta vision des choses, le paradigme dans lequel ils pensent la question est fondamentalement a fondamentalement des lacunes. C'est notamment, on en parlait avant de rentrer en onde, que selon la CAQ, en fait, les loyers ne seraient pas assez hauts.
Oui, bien en fait, tu sais, on s'entend, la gestion des finances publiques de la CAQ depuis qu'elle est au pouvoir, bien depuis que le parti est au pouvoir, en fait, s'articule autour d'une chose, augmenter le PIB au Québec. Selon l'idéologie du parti, plus on a un bon PIB au Québec, mieux les gens vont. Puis ça, moi personnellement, je pense pas que le PIB c'est une bonne métrique de si les gens vont bien au Québec ou pas. Puis comment ça s'incarne, tu sais, sur le plan du marché de l'habitation, puis on l'a vu avec les projections budgétaires de Éric Girard pour 2025, ce qui va permettre au Québec d'augmenter son PIB, ben c'est l'augmentation de la valeur des propriétés immobilières.
Qui ne crée pas de richesse réelle, en fait. Ça rajoute un fardeau sur plein de gens vulnérables.
Bien, c'est là où, à mon sens, c'est la raison pour laquelle je pense qu'on est dans une crise de l'habitation, qui est un terme qui a été popularisé par Vivre en ville et, entre autres, Adam Mongrain, plutôt qu'en crise du logement. Parce que le marché immobilier et le marché locatif, c'est des bases communicants. Les gens sont locataires parce qu'ils ne peuvent pas être propriétaires. Mm-hmm. Donc, quand les maisons coûtent de plus en plus cher, parce qu'ils prennent de plus en plus de valeur, mais que les revenus n'augmentent pas au même rythme, les gens sont de moins capables, moins en moins capables d'être propriétaires. Donc, il y a une plus en plus grande proportion de gens qui sont obligés d'être locataires. Puis là, tu as une déconnexion entre l'offre et la demande qu'on voit en ce moment.
C'est tout à fait un problème aussi, parce que, dans le fond, c'est juste que les gouvernements s'axent autour des propriétaires pour trouver des solutions et non des locataires. Fait, dans le fond, ils vont se baser sur la plus petite portion de la population qui possède et non la plus grande partie de la population qui est en location, dans le fond?
Bien, ça, là encore, tu sais, c'est une question de perception, mais il faut se rappeler que quand tu es locataire, le montant que tu payes à chaque mois pour ton loyer, tu t'appauvris de ce montant-là. C'est pas un investissement. Tu perds le montant que tu payes en loyer et tu ne le retrouveras jamais. Quand tu es propriétaire, même si tu ne réussisses pas à faire du profit, okay, sur ton immeuble à logement locatif, même si tu réussis strictement à rembourser ton hypothèque, tu gagnes.
Ça reste
tu t'enrichis parce qu'il y a des personnes qui, puis malheureusement en ce moment c'est la réalité, dans plusieurs des cas, des personnes qui proviennent d'une situation économique moins avantageuse que celle des propriétaires, donc les locataires, qui aident les propriétaires à rembourser leur hypothèque. Puis juste en réussissant à rembourser leur hypothèque, ben après ça les propriétaires en sortent gagnants, ils ont un immeuble. Puis, je dis pas encore que là, genre, ceux qu'on doit antagoniser ou les méchants dans l'histoire, c'est les propriétaires. Ben non, tu sais, c'est normal que le monde dans la vie, ils veulent avoir la meilleure qualité de vie possible. Quand ils ont investi de l'argent dans quelque chose, ben ils ont envie de revoir la couleur de leur argent. Mais je pense que le fait de déléguer la responsabilité du fait de loger les Québécois et Québécoises à un marché privé, qui, lui, son rôle, puis c'est pas nécessairement négatif, c'est de faire le plus d'argent possible. C'est pas de combler un besoin. Bien, ça nous amène dans la situation dans laquelle on est en ce moment.
Mais on a aussi vendu l'idée, puis c'est encore très présent dans plusieurs discours, l'idée que investir dans l'immobilier, c'est une manière efficace de faire de l'argent, puis que c'est pas obligé d'être ta job principale, ça peut être un side hustle, comme on dit en beau français. Tu sais, il y a ce problème-là aussi, puis je veux dire, il y a tellement de gens, puis ça fait des décennies aussi que, tu sais, puis c'est normal, comme tu l'as dit, on s'appauvrit en étant locataire structurellement, donc les gens ont tout intérêt à être propriétaires. Sauf que l'affaire, c'est que la maison, souvent, devient un actif qui permet, parce que c'est un investissement dans le contexte d'inflation, des valeurs, inflation infinie sur le temps, des valeurs immobilières, ça devient un investissement pour ton fonds de retraite.
Mais il y a ça comme conjoncture économique qui, je pense, est vraiment centrale, en fait, à la crise du logement. Là. Puis la raison pour laquelle je dis que, tu sais, il y a un lien entre le marché immobilier puis le marché locatif, c'est parce que ultimement, tu peux, genre, prendre une hypothèque, là, contracter une dette, toi en tant qu'individu personnellement, pour t'acheter une maison, ça vaut seulement la peine si cette maison-là, elle prend de la valeur. Fait que tout notre système est pris dans cette roue où la seule manière, mais pas la seule manière, mais la manière dont on encourage les gens de s'enrichir, capitalise sur une seule chose, puis c'est l'inflation de la valeur des propriétés immobilières. Si les propriétés immobilières arrêtent de prendre de la valeur, l'investissement de la majorité des gens, on n'aura peut-être pas valu la peine. Mais en même temps, cette inflation-là de la valeur immobilière, c'est ce qui favorise aussi la spéculation. Ouais. T'sais, on le voit, là, il y a plein de propriétaires non québécois qui arrivent au Québec, qui achètent des dizaines de maisons parce qu'ils savent que ces maisons-là vont prendre de la valeur et donc que ça va être un bon investissement financier. Mais je pense que ça vaut la peine au Québec qu'on se pose la question, est-ce qu'un besoin fondamental comme le logement devrait être perçu comme un investissement financier ou est-ce qu'il faudrait changer de paradigme?
Mm-hmm. Puis cette question-là n'est pas la question fondamentale en ce moment quand on pense la question de l'habitation. Il y a toutes sortes d'autres choses. Il y a le rôle d'Airbnb, par exemple, là-dedans, où en fait, on crée de la concurrence déloyale sur le marché. Il y a la manière dont on construit nos villes, puis qu'on pense l'habitation, de faire des maisons unifamiliales, de faire des gros HLM, puis que l'entre-deux, comme on pourra en reparler des plex, par exemple, ne prend pas beaucoup de place. Il y a aussi l'immigration, mais c'est surtout ça en ce moment qu'on a dans le débat public. C'est certainement... je sais que Cédric, tu avais préparé des chiffres là-dessus, je pense que tu avais regardé.
Au niveau de l'immigration, c'est ce que... C'est par exemple ce qui avait avancé, notamment dans le débat. C'est surtout qu'on disait que, par exemple, on a 230 000 nouveaux arrivants souvent au Québec par année actuellement 2023, puis que les mises en logement, c'est à peu près 30 000, les mises en chantier. Donc, il disait que même si on double la capacité, on ne sera jamais capable, par exemple, de la rattraper puis de loger ces gens-là. C'est surtout cet argument-là souvent qui est avancé de plus en plus. Hein.
Moi, je pense que deux analyses qui découlent un peu de cette affirmation-là. Moi, d'une part, puis j'ai toujours été très transparente là-dessus, je suis un peu déçue que quand on parle de la déconnexion entre l'offre et la demande au Québec, dans l'espace public, on parle juste d'immigration, puis qu'on parle pas d'à quel point les jeunes de notre génération ne peuvent pas devenir propriétaires parce que les maisons sont devenues trop chères. Donc, c'est pour ça qu'on va rester locataire longtemps. T'sais, si on parle strictement mathématiquement, là, il y a beaucoup plus de locataires qui sont locataires parce qu'ils peuvent pas s'acheter de propriété que de locataires qui sont locataires parce que c'est des nouveaux arrivants. Strictement mathématiquement, tu sais. Fait que si on veut adresser la question à la source, évidemment qu'il y a toute une réflexion à avoir sur, de un, la capacité d'accueil du Québec, mais de deux aussi, pourquoi est-ce qu'on a cette dépendance-là envers l'immigration, puis qui, ça, ultimement, est une question économique pour continuer à ce que le Québec croit économiquement, puis aspire à une productivité perpétuelle, on ne peut pas fonctionner sans immigration.
Mm-hmm. Oui, c'est ça. C'est ça qui revient souvent, c'est que même aussi quand on parle de comment Éric Girard voit la croissance, tout est axé autour de la notion du PIB, qui est une notion, somme toute, réductrice pour évaluer comment l'économie performe, puis comment les gens en bénéficient, puis sont heureux, puis ont une qualité de vie. Puis ça pourrait amener à parler d'une des autres implications que tu fais, qui est dans le chantier de l'économie sociale. Qu'est-ce que c'est l'économie sociale? Puis comment, en fait, est-ce que dans ce cadre-là, vous essayez de repenser la question des mesures, des indicateurs qui font qu'on a une économie qui fonctionne ou pas?
C'est une bonne question. T'sais, l'économie sociale, c'est un concept qu'on entend de plus en plus parler, mais qui serait, somme toute, très vague, j'ai l'impression, dans la tête des gens. Pour expliquer simplement, l'économie sociale, c'est du privé. C'est pas le gouvernement qui...
fait du socialisme.
Qui fait du socialisme, tu sais, aucunement. En fait, c'est... réfléchissez dans votre entourage aux organismes à but non lucratif qu'il va y avoir dans votre communauté. Que ce soit des radios étudiantes, des associations étudiantes, des organisations à but non lucratif aussi, tu sais. Il y a du logement à but non lucratif qu'on voit de plus en plus. Il y a des épiceries, des cafés à but non lucratif. Tu sais, le but non lucratif, l'économie sociale, c'est un modèle d'affaires, avant toute chose, qui a comme but de répondre à un besoin de la population, d'une communauté que tu vas définir, par exemple au Québec, avant que ta priorité soit de maximiser le rendement aux actionnaires. Je pense comme ça que je l'expliquerai.
OK. Puis justement, dans le cadre de la question de l'habitation, comment est-ce que ça intervient?
Bien, je pense qu'en ce moment, un modèle d'affaires axé sur le fait de maximiser le rendement aux actionnaires sur le marché locatif est inefficace. Puis l'exemple que je vais mobiliser pour dire ça, c'est la vague de fermeture des résidences pour personnes âgées qu'il y a eu l'année dernière. Il y a plus de 70 RPA, pour leur petit surnom, qui ont fermé l'année dernière. Puis il y a même, entre autres, le ben, l'entité qui est propriétaire de la résidence Le Tournesol dans Unsic à Montréal, qui, en entrevue avec les médias, a dit « Le modèle d'affaires des RPA est brisé ». Mais la raison pour laquelle il est brisé, c'est pas parce qu'il n'y a plus de demande pour loger les aînés. T'sais, on l'a vu, même le gouvernement du Québec a investi des sommes d'argent astronomiques pour aider à loger les aînés. Ah,
d'un million par porte. Là.
Mais ouais. Ces investissements-là n'auraient pas été faits s'il n'y avait pas de demande pour loger des aînés. Fait que le problème n'est pas avec la demande, avec le modèle des RPA. Le problème, c'est que le prix demandé pour les loyers des résidences pour personnes aînées était déconnecté de la capacité de payer des aînés qui demandaient un logement. C'est ça qui explique qu'il y avait des taux d'inoccupation de 50 % dans certaines résidences qui ont mené à leur fermeture. Mmh. Si tu n'as personne qui est prêt à payer le prix que tu demandes, tu ne vas pas louer ton logement. Puis c'est ça qui est particulier aussi avec le marché de l'habitation en comparaison avec d'autres marchés. Il y a le fait que, pour reprendre un exemple que j'ai déjà nommé, si moi, j'ai envie de me payer un petit luxe aujourd'hui, treat yourself girl, je m'en vais dans un café, je me prends le café cappuccino avec la crème fouettée puis des petits copeaux de chocolat à 8 $, je suis une étudiante. Je n'ai pas théoriquement le budget de me payer ce café-là. Je devrais m'acheter le café filtre à 2 $. Mais je peux quand même me le permettre. Je peux payer 8 $ pour le café. Mais avec un logement, considérant que le logement, c'est la plus grande dépense mensuelle oui. de la majorité des gens, je ne peux pas juste décider demain matin, « Ah, je vais me payer un petit luxe. Je vais louer un condo de luxe à Montréal à 2 000 $ par mois. Je n'ai pas l'argent. » Donc, ce qui se passe avec les résidences pour personnes aînées, c'est que les aînés, même s'ils ont besoin d'un logement, ils ne peuvent pas payer 2 000 $ par mois. Donc, les logements des résidences pour personnes aînées privées restent vides. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle ils ont fermé l'année dernière.
C'est là que ça amène aussi la question des maisons multigénérationnelles aussi, ou intergénérationnelles qui pourraient être une bonne solution à ce niveau-là. Ça amène aussi une question plus, un aspect plus culturel aussi à, au Québec, là, qu'il faudrait se redemander, mais ça pourrait être une solution à long terme qui a beaucoup d'avantages qui sont présentés autant pour quasiment au niveau de pour garder les enfants, pour accéder plus facilement à une propriété, pour laisser un héritage,
pour transmettre des compétences et de la culture.
La valeur, des valeurs enseignées justement aux nouvelles générations.
Et lutter contre la solitude aussi, là, qui est très connue actuellement pour les personnes âgées notamment.
Ouais. Moi, j'ai une question pour vous. Trouvez-vous qu'il manque de mixité intergénérationnelle au Québec?
100%.
Ouais, 100%. Ouais. C'est problématique, ouais. Je pense. Il n'y a pas de transmission générationnelle.
Comme on peut prendre l'exemple de la construction pour en tant qu'homme, mettons, moi, là, ou mon père. Ça n'a pas été quelque chose dans lequel on s'est axé parce que le paradigme dominant de la société, ben, je ne peux pas blâmer juste la société pour ça. Moi et mon père, on aurait peut-être dû se responsabiliser davantage. Mais mon père, il meurt que moi, en tout cas. Mais tu sais, le paradigme dominant dans la société, puis ça, c'est prouvé, c'est, dans la modernité, c'est la division scientifique du travail. On va spécialiser les gens dans différents domaines. Donc, la construction, c'est pour les gens qui s'y connaissent. T'sais, mais en dehors de ça, il y a des gens qui doivent être spécialisés en politique comme nous, ou des gens qui sont spécialisés en finance, en assurance, en tout ce qu'on veut. Mais on pense pas l'être humain ou la famille, peu importe, comme devant être complet. On dit on va sous-traiter une partie des responsabilités de la vie à quelqu'un qui est spécialiste, puis on pourrait parler, par exemple, de la construction, mais on pourrait aussi parler de la cuisine ou de la couture, ces choses-là.
Oui, c'est intéressant comme réflexion. Puis, à mon sens, puis en tout cas, c'est peut-être une opinion controversée, mais je pense que plus dans les instances décisionnelles, que ce soit en politique, mais aussi en économie, dans les entreprises, etc., plus on va faire de la place pour les idées des jeunes, moins on va réfléchir en silo. Parce que les universités le voient beaucoup présentement, la demande étudiante pour des programmes multidisciplinaires explose. Vu qu'on a grandi dans une réalité où on réalise que toutes les crises qu'on traverse, les crises économiques, crises de l'habitation, crises de la santé mentale, ils ont tout un lien ultimement entre elles, mais on réalise qu'on a bien beau se spécialiser dans un domaine. Par exemple, je pourrais aller faire un bac en droit, mon barreau, etc. Mais après ça, si moi, je comprends juste la crise de l'habitation dans la perspective juridique, mais que je ne comprends pas la perspective économique, que je ne comprends pas la perspective démographique, que je ne comprends pas la perspective sociale, mais je ne comprends pas vraiment la crise de l'habitation, tu sais. Puis on a comme ce besoin-là générationnel, j'ai l'impression, les jeunes, d'être capables de voir les choses dans leur ensemble pour réellement vouloir adresser les problèmes à la cause puis pas juste mitiger leurs conséquences.
Oui, c'est ça. Puis c'est comme sur l'aspect de la construction, on parlait des mises en chantier, par exemple. C'est qu'il y a un bassin limité de gens spécialisés pour construire des maisons selon toutes les normes fixées, etc. Mais en tant que tel, il y a une grande partie de ces effectifs-là qui doivent en ce moment être consacrés à faire des réparations dans des maisons ou des logements, où les, alors que c'est, les gens concernés dans les maisons en question n'ont pas le capital culturel de savoir comment changer de la plomberie ou poser du marbre, je sais pas, tu sais, je dis n'importe quoi ici, des tuiles, tu sais.
Mais je pense que c'est peut-être là où les milieux urbains, fait que les villes, ont beaucoup à apprendre des milieux ruraux. Dans la mesure où, tu sais, le sentiment de résilience communautaire dans un village, mettons, tu sais, moi, j'ai passé la moitié de mon enfance à Sutton parce que ma famille a une résidence dans les cantons de l'Est, t'as tellement plus un sentiment de communauté de par le fait que tu connais tes voisins et tu connais comment tes voisins peuvent t'aider et tes voisins savent comment toi, tu peux les aider aussi. Que, mettons, on a eu un problème à un moment donné, on avait notre toit qui coulait. OK, ben en marchant, genre, sur notre terrain, on croise le voisin d'en face, on lui raconte notre problème, il fait « Ah, moi, je connais Johnny, j'ai un ami qui vit juste en bas du chemin, que lui, genre, il a déjà réparé des toits, je vais l'appeler, je lui demander c'est quoi le problème. » Le lendemain matin, Johnny était chez nous, puis il a pu nous expliquer c'était quoi le problème, tu sais. Puis je trouve que, en tout cas, pour avoir grandi toute ma vie à Montréal quand même, c'est quelque chose qui me rend triste à quel point on est beaucoup à vivre côte à côte, mais qu'on ne se connaît pas.
Ouais, ouais. Puis à ce titre-là, je sais qu'avec Vivre en ville, vous pensez la question du logement, de l'habitation, mais vous pensez aussi la question, plus globalement, de façon plus holistique, dans comment est-ce qu'on organise nos quartiers pour qu'il y ait de la vie communautaire et que les gens apprennent à se connaître.
Exact. Ben, tu sais, Vivre en ville, qui est l'organisation pour laquelle j'ai travaillé en revenant de mon échange, l'objectif, c'est de bâtir des collectivités viables. Mais ça, je pense que c'est un idéal qui, politiquement, aurait beaucoup de sens si on se décidait de l'appliquer pour vrai. Le fait est que, tu sais, les communautés sont au cœur de la transition écologique, sont au cœur des enjeux de santé mentale, sont au cœur de pas mal tout, tu sais. Quand tout à l'heure, je disais que l'habitation a un lien avec tout, bien, l'habitation, là où se trouve ton logement, c'est aussi, bien, dans quelle collectivité est-ce qu'il se trouve, tu sais, c'est quoi ton code postal? C'est quoi les services de proximité proches de ton code postal, etc., genre? Fait que là-dessus, il y a cette question-là de... Alors que le discours entourant la crise du logement a été presque monopolisé par le narratif prescrivant de construire plus, je pense qu'il convient de se demander, mais construire plus où, comment et pourquoi? Puis pour s'assurer que l'augmentation de l'offre réponde aux besoins de la demande, bien, il faut d'une part comprendre la demande. Il faudrait que le gouvernement du Québec commence à recueillir des informations sur le prix des loyers, ce qu'il ne fait plus. Depuis la nouvelle mouture du relevé 31, mais aussi qu'on se pose la question, ben, lorsqu'on dit qu'il faut densifier nos villes, par exemple, si demain matin, je vais reprendre l'exemple de Sutton parce que c'est ce que je connais, mais il y avait un immense complexe de 400 logements qui était construit à Sutton, nos aqueducs ne survivraient pas. Il y aurait une pénurie d'eau à Sutton. C'est pour ça que je pense que la densification, le fait d'avoir plus de personnes dans des milieux de vie complets, c'est un idéal, mais il faut le faire intelligemment. Donc, moi, c'est la raison pour laquelle je pense que plus il va y avoir de plex, donc de logements duplex, triplex, siplex, peu importe, à but non lucratif, dans des milieux de vie complets, fait que des milieux de vie où, tu sais, mettons le principe de la ville 15 minutes, à proximité, tu peux avoir accès à tous tes services de base, bien, plus on va sortir de la crise de l'habitation. Mais s'il y a une chose que plus j'en vois, mieux je pense qu'on se porte, c'est des plex à but non lucratif.
Puis c'est triste parce que tout ça, c'est des idées super intéressantes, mais il y a une partie... Là, on rentre dans quelque chose d'autre, mais tu sais, il y a une partie de la droite complotiste qui récupère ces projets-là puis qui essaie de faire comme s'il y avait un complot pour contrôler la population, alors qu'au contraire, le but, c'est de la libérer un petit peu d'un conditionnement où tu as une dépendance à ta voiture, par exemple, pour... Mais tu sais, parce que il y a ce discours-là que la ville 15 minutes, en fait, ce serait que tu aurais un rayon de 15 minutes de marche ou de vélo, puis alentour duquel tu peux marcher. Puis si tu sors, ben là, tu vas avoir genre un bip-bip qui te dit... je sais pas trop, là, c'est...
Non, je te garantis, si avec CA Québec, le gouvernement est même pas capable de faire un site web qui fonctionne, il y aura pas de bip-bip à chaque 15 minutes quand tu marches. C'est très peu réaliste.
La société de contrôle et de surveillance, c'est pas toujours là où on la pense. En tout cas.
Mais en même temps, si je tiens à dire que je comprends les gens d'avoir peur quand on leur dit il va y avoir plein de monde que tu connais pas qui vont venir habiter proche de chez toi. Je pense que c'est une réaction humaine normale, d'avoir peur du changement. Mais je pense qu'il faut aussi réaliser que, en ce moment, est-ce que notre qualité de vie puis notre manière d'interagir avec notre communauté, c'est vraiment l'idéal? Est-ce que le fait de ne pas connaître nos voisins en ville, c'est idéal? Est-ce que le fait de, en tant que communauté, être même pas capable de combler nos propres besoins de base, t'sais, par exemple, consommer la nourriture qu'on produit au Québec, pour ne pas le nommer, c'est l'idéal. Moi, personnellement, je pense pas. Puis je pense que c'est possible de réorganiser notre rapport à la communauté de manière intelligente, sans pour autant mettre des pressions démesurées sur les services publics, t'sais, comme avec l'exemple que je donnais d'un gros immeuble de 400 logements.
Et ça peut être aussi pour plein d'autres questions, comme on parlait de capacité d'accueil liée à l'immigration. En ce moment, on a vraiment encore là une pensée compartimentée où on fixe des mandats à des organismes spécifiques ou au gouvernement le fait de gérer l'accueil des immigrants. Mais avec le volume actuel puis le paradigme dans lequel on le pense, il n'y a pas la capacité de gérer ça. Donc la capacité d'accueil, encore là, elle est structurée par comment la communauté fonctionne. Parce que si tu n'as pas de tissu social informel comme on... Si on repense la communauté pour que les gens se connaissent davantage, si l'immigrant arrive, puis il est seul, puis il connaît personne, qu'il n'y a pas un réseau de contact, ben c'est sûr que rendu là, se trouver une job, c'est plus compliqué. Se trouver justement pour avoir un petit service de n'importe quoi, c'est compliqué. Pour comprendre la communauté dans laquelle tu vis, c'est pas mal plus compliqué si tu n'as pas un accès à tes voisins, puis à avoir une vie de quartier, de communauté.
C'est sûr. Puis tu sais, moi, je pense qu'au Québec, l'économie sociale, mais ça devrait être encore plus une fierté. On est reconnu partout dans le monde pour nos initiatives d'économie sociale. Mettons, dans deux semaines, je vais participer à un webinaire de lancement du pôle jeunesse du Forum social mondial avec des ressortissants de la Côte d'Ivoire, de France, du Mexique. Puis ce que fait le chantier de l'économie sociale au Québec, les organismes à but non lucratif qu'on a ici, les banques coopératives, des projets de communauté, il y a des chercheurs de partout dans le monde qui regardent ce qu'on fait puis qui sont comme « wow ». Des gens qui s'organisent ensemble pour combler leurs propres besoins, c'est donc bien excellent. Mais dans ce cas-là, je pense qu'on devrait être digne de la source d'inspiration qu'on insuffle à la communauté internationale, puis en faire un réel projet de société, de se recentrer autour de l'économie sociale. Et,
parce qu'on n'est pas les seuls à être aux prises avec une crise du logement. C'est sûr que le Canada est reconnu comme un des centres névralgiques de la crise de l'habitation dans le monde, mais en France, au Portugal, aux États-Unis, il y a tellement d'endroits aussi qui subissent le même problème. Puis encore là, ça revient au fait que le paradigme de la croissance avec comme seul indicateur le PIB, puis le fait que l'immobilier est un facteur important de croissance, on n'est pas les seuls dans le monde. Donc c'est ça, c'est une réalité qui est partagée mondialement.
Mais je serais curieuse de vous entendre parce que, tu sais, je l'ai mentionné tout à l'heure, à mon sens, le PIB, c'est pas une bonne métrique de la qualité de vie de la population, ne serait-ce que parce que ça vient pas indiquer à quel point les besoins de base de la population sont remplis. Puis moi, c'est sûr que, tu sais, ça fait partie de mon intérêt de recherche, que je considère que le logement, c'est central à la santé et à la sécurité publique, puis que dans la manière dont on gère les finances publiques au Québec, ben, on devrait avoir comme objectif que au moins l'entièreté de la population atteigne un seuil minimal de performance dans ces différents indicateurs-là. Genre. Mais selon vous, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que les gens se sentent davantage responsables d'à quel point les besoins de la communauté dans lesquelles ils évoluent sont comblés?
C'est une très bonne question.
Mais déjà, je pense de faire des forums de discussion, de rapprocher les gens par des événements. Les gens se parlent plus, qui réalisent qu'ils ont des problèmes communs, mais qu'ils ne savaient même pas, que la personne d'à côté avait le même problème qu'elle, puis trouver des solutions ensemble. Ça a démontré même aux États-Unis sur les problèmes qu'on a avec bon, les républicains et les démocrates un peu, mais de faire des forums de discussion, ça peut aider vraiment à rapprocher les gens plus qu'on pense. Puis aujourd'hui, dans une culture où toutes les gens sont isolés, où ils ne se parlent plus en face, mais juste le fait de parler à son voisin, de réaliser les enjeux qu'ils peuvent connaître les deux.
Plus d'événements en vrai.
Oui, mais c'est aussi, je pense que vu que nos villes sont tellement loin puis on est tellement éloignés, si on pouvait avoir des lieux plus publics, je trouve qu'on n'en a pas assez, exemple en Amérique du Nord, des parcs où les gens ils se retrouvent, ils discutent. Juste le fait, exemple, qu'une famille amène son enfant dans un parc puis qu'il parle avec l'autre parent, puis ils discutent, ça crée des liens, puis ils se rendent compte des problématiques qu'un vit, puis que l'autre va vivre, mais que les gens, ils vont même plus là, ils se parlent plus, ils restent dans leur logement parce qu'ils ont tout dans leur maison. Ils ont besoin de sortir. Je pense que c'est de créer de la nécessité d'être en commun.
Puis aussi, il y a créer un engagement par rapport à que ce soit l'histoire ou l'actualité de ta communauté, dans le sens, tu sais, moi qui viens du Saguenay, des fois, j'ai grandi dans une famille où ça parlait full de l'histoire, puis ça suivait full l'actualité, les médias locaux, puis j'étais comme, damn, OK, on a une grosse culture, on a une grosse identité, puis c'est quelque chose qui existe encore, cet engagement-là, chez les plus vieilles générations, puis il y a certaines communautés comme Arvida qui le font mieux que d'autres, notamment parce que il y a des marchés publics dehors là, qui se créent l'été, les gens sont engagés dans le patrimoine, notamment ces choses-là, mais chez les jeunes, on dirait que de par notre socialisation qui est différente, notamment dématérialisée, faite avec les réseaux sociaux, où tu peux voir davantage de nouvelles des États-Unis et ces choses-là, ça crée comme un... Mais là, on reporte la question du logement, mais en même temps, j'aime ça qu'on on jase, là, comme on dit.
Oui, mais je pense que je vois ce que tu veux dire, mais c'est peut-être là où moi, j'ai une perspective un peu différente, mm-hmm. dans le sens où, oui, notre génération, tu sais, on grandit dans... une réalité où les êtres humains n'ont jamais eu accès à une aussi grande quantité d'informations au bout de leurs doigts. Tu sais, moi, j'ai des amis que je me suis fait en échange étudiant quand j'étais en France, tu sais, qui vivent au Liban. Je vois des stories sur ça ressemble à quoi, la crise de l'habitation au Liban. Je te garantis qu'en 1940, à moins que tu aies lu un article dans une revue internationale, tu ne savais pas ça ressemblait à quoi la crise de l'habitation au Liban. Fait que c'est le genre de décentralisation-là des sources d'informations qui ne passent plus exclusivement par les médias traditionnels. Ça fait en sorte que, ben, comme je mentionnais tout à l'heure, d'une part, ça nous fait prendre conscience à quel point la majorité des problèmes qui étaient avant réfléchis en silo finissent par être interconnectés. Puis à quel point aussi des enjeux qu'on vit au Québec, ce n'est pas juste au Québec qui se vivent. C'est partout dans le monde. Fait que je pense que, au contraire, ce genre de multiplicité-là d'informations qui nous est accessible crée un sentiment de responsabilité qui est peut-être même plus grand. Parce que si tu réalises que tout le monde dans le monde traverse le même problème, fait que tout le monde dans le monde a besoin de se responsabiliser par rapport à ça, tu dis, ben OK, ben moi, je suis ici au Québec, on vit ce problème-là, je dois faire partie des gens qui réfléchissent à comment le régler ici, tu sais.
Ouais.
S'il y a du monde en Autriche qui vivent le même problème, puis les gens là-bas se responsabilisent à comment le régler, c'est pas des gens d'Autriche qui vont venir nous libérer de la crise de l'habitation au Québec, tu sais. C'est à nous de faire quelque chose,
Ça a été démontré aussi dans l'histoire, je veux dire, avec la dépendance aux sentiers, tu sais. Je pense que dans les années 80, le Québec faisait même avait des problèmes similaires à la Suède, par rapport notamment aux questions d'éducation, ainsi de suite, mais ils ont pris des tangentes complètement différentes et assez... En fait, je pense que c'est vraiment la dépendance au sentier aussi qu'il faut revoir aussi. Puis là, en ce moment, les directions qu'on prend, peut-être que c'est ce qui va nous encore plus nous bloquer ou nous limiter dans le temps. En fait, c'est peut-être justement le temps de briser certaines choses qu'on a puis de prendre une autre direction qui pourrait nous
aider. Les paradigmes dominants de pensée puis de l'action.
Et puis réfléchir à ce qui se fait à l'international.
Oui, comme l'Autriche, justement, à Vienne.
Justement, là, avec les logements, c'est quand même phénoménal, même si c'est difficile de l'appliquer. Là, j'avoue que c'est quand même... Quand on compare des villes, par contre, Montréal, c'est quand même... La taille de la ville est quand même comme Vienne. Par contre, je veux dire, il y a un contexte social européen qui a permis à Vienne de se permettre qu'elle se permet, parce qu'elle subventionne elle-même la plupart des logements, parce que c'est... Il me semble que c'est 420 000 logements. C'est 60% de la population de Vienne qui vit dans des logements qui sont financés par la ville. Mm-hmm. Ce qui fait qu'il n'y a pas de disparité entre les riches et les pauvres. Ils habitent dans les mêmes endroits, donc ils discutent entre eux.
Il y a une mixité sociale.
Exact. Puis c'est ça qui est important, puis c'est ça qu'il n'y a plus. Puis c'est ça qu'il n'y a pas en Amérique du Nord. On voit facilement quand on arrive dans une ville, chaque fois un quartier qui est différent. Quand tu arrives à Vienne, des fois, puis pour être personnellement allé trois fois là-bas, je ne vois pas la différence dans les quartiers. Et je vois pas, même quand la personne sort de son logement, je vois pas la différence dans son allure.
Mais faut dire aussi, en contexte, à Vienne, ils ont la chance d'avoir des épiceries dans des anciennes cathédrales. Là, genre, l'immobilier qui leur est disponible est assez phénoménal.
Puis comment la ville a été faite, la proximité, le transport en commun, tout ça, ça permet aussi ça. Parce qu'un étalement urbain qui s'éloigne, puis on veut construire...
Mais être entouré... C'est intéressant, l'exemple de l'épicerie dans la cathédrale. Être entouré de beau, puis de quelque chose que tu te dis, waouh, OK, c'est enraciné dans comme de l'histoire, puis une forme de grandeur, ça peut amener une forme de... Ben là, c'est peut-être... Je sais pas à quel point c'est important. Oui, de fierté.
Ouais.
De fierté, de se dire, OK, mais là où je suis, c'est pas juste un endroit sans fond, c'est un endroit qui a un sens, tu sais. Puis ça me donne envie de perpétuer ce que les ancêtres y ont fait, tu sais, puis de continuer à
donner. C'est un leg, en fait, qui est fait. Puis je pense que c'est ça qui est important. C'est ça qu'ils ont fait en Autriche. Par exemple, tous leurs logements sont construits par des concours en architecture. C'est des gens qui sont issus de l'éducation, justement, autrichienne, qui construisent. Il y a des concours qui permettent aussi, parce qu'on sait aussi le milieu de l'architecture, où comme beaucoup de milieux spécialisés, c'est dur de monter dans les échelons ou d'avoir des contrats. Mm-hmm. Il permet justement des concours où tu as des jeunes qui sont hyper talentueux, que finalement, s'ils seraient dans un autre pays, ils ne seraient jamais connus. Puis ils permettent de monter dans la société, puis d'avoir une fierté que ce n'est pas une compagnie qui a été sous-traitée de je ne sais pas trop quel pays ailleurs qui fait construire mon logement, ou qui est financée par, je ne sais pas, l'Arabie Saoudite ou quoi que ce soit. Qu'il y ait quelque chose de local, puis si, qu'il y ait une beauté.
Surtout s'il y a un cachet comme local dans la manière dont l'architecture est faite. Il y a ça à plein d'endroits au Québec. On a notre propre manière de construire nos maisons qui vient de la Normandie, tout ça. Puis même, là, on dérive un peu, mais il y a des projets, il appelle ça de l'architecture vernaculaire, notamment dans les communautés autochtones, notamment Cree, qui fait en sorte que, parce que tu sais comment les communautés ont été construites puis sédentarisées de force, tu sais, c'est à travers des, genre des bungalows complètement désincarnés.
Vide, gris et plate, là.
C'est ça, de ce que eux, ça veut dire habiter un territoire. Puis ils essaient de repenser comment construire ça, puis c'est super intéressant, en tout cas.
Bien, à ce sujet-là, je pense que c'est intéressant de réfléchir l'habitation dans le paradigme d'une philosophie sociale. Puis ce que je veux dire par là, c'est que si on compare justement notre rapport à l'habitation en Amérique du Nord par rapport à en Europe, le sentiment de fierté de la manière dont on occupe l'espace en Amérique du Nord est beaucoup plus individualiste. Mm-hmm. En Europe, tu vas être fier d'occuper un espace public, que ce soit un parc, un musée, une épicerie dans une cathédrale, parce que c'est un phénomène commun. C'est un espace qui appartient à la collectivité. Mm-hmm. En Amérique du Nord, notre fierté d'occuper l'espace, c'est que tu as une super belle piscine. C'est que tu as un patio fait avec le nouveau bois super fancy que tu peux flex avec les autres maisons de banlieue. Tu sais, ce sentiment de fierté-là, rattaché à comment on occupe notre territoire, est beaucoup plus axé sur le « moi », comment je me distingue dans un environnement social de mes voisins. Ouais. Parce que mieux tu occupes ton espace personnel, plus c'est un gage de crédit social, un peu, dans un sens, tu sais, de réputation, genre. Mais je pense qu'on a tout intérêt à venir déconstruire d'une certaine manière ce rapport-là pour que la fierté devienne la manière dont collectivement on occupe des tiers-lieux.
Mais je pense que ça s'est perdu aussi avec tout ce qui s'est passé dans la récente histoire, mais je pense que le Québec l'avait avant, puis il l'a perdu justement à la Révolution tranquille, tout ce qui s'est passé économiquement les années 80. Je pense qu'en Amérique du Nord,
la massification,
ça a vraiment changé. Puis je pense qu'il faut retourner un peu à des racines, de réutiliser l'ancien, puis de le mettre collectivement. Puis c'est vraiment beau. Puis qu'est-ce que, justement, je recherchais sur mon téléphone, un truc que j'ai vu cet été. Mais c'était justement à Paris, où ils ont réutilisé dans les banlieues, que ça s'appelle Clamart, où ils ont repris l'architecture haussmannienne, donc qui est l'architecture de Paris, justement qui a fait que Paris était la beauté, puis la fierté. Ouais. Des années du 19e siècle, exactement, de la belle époque. Mm-hmm. Ils ont tout réutilisé ça, donc ils ont réutilisé un cachet du passé, mais le moderniser, donc rajouter des lieux plus d'environnement où il y avait les familles qui pouvaient se retrouver avec un café au centre, où tu avais un aspect de cercle, de communauté qui se recréait. Puis je pense que c'est vraiment important que dans une société moderne, on recrée justement cette communauté, parce que cet individualisme, en fait, on n'a pas vraiment de lien avec notre voisin, à part qu'on parle la même langue. Finalement, c'est quoi les liens, c'est quoi les discussions qu'on a?
Par contre, je pense que là où il faut rester lucide d'à quel point le modèle européen est exportable au Québec, c'est nos circonstances climatiques. Tu sais, au Québec, tu sais, mettons, je pense justement, durant la pandémie, là, même s'il faisait moins 30, les jeunes allaient se retrouver au Parc Laurier, à Montréal, par exemple. T'sais. Mais en temps normal, c'est normal que quand il faut que tu aies une cagoule, deux foulards, huit épaisseurs de vêtements, occuper des espaces publics comme les parcs en hiver, c'est difficile. Puis je pense que ça aussi, ça explique peut-être pourquoi est-ce qu'on s'est redirigé vers une fierté de l'exploitation de l'espace qui est plus individualiste, parce qu'une maison, c'est aussi là où tu peux accueillir les gens que t'aimes. Tu sais, une maison, c'est lié à ta santé mentale. Si t'as l'espace de faire des parties pour chiller avec tes amis, c'est un luxe.
Oui, puis historiquement, il y a une différence. C'est typiquement québécois, c'est que nous, on préfère socialiser dans la cuisine. Ça, c'est un fait particulier qui remonte, c'est ça, à l'histoire. Mais, tu sais, aussi, nous, on avait notre manière, l'hiver, de se voir, c'était l'éveiller. Ouais. Bon, là, ça veut pas dire qu'on devrait tout faire de la musique traditionnelle avec mes aïeux puis la bottine souriante.
Ce serait lit.
Ça peut être ça. Ça peut être ça, mais ça peut aussi être tout ça, tous les autres genres de musique ou d'art possible, du slam, n'importe quoi. T'sais. La culture, c'est pas... Encore là, ça revient dans le paradigme de spécialisation. C'est pas juste les artistes qui peuvent faire créer de la culture. La culture, c'est le mode de vie, c'est la cuisine, c'est la broderie, c'est tout.
Mais j'irais même plus loin que ça, tu sais, c'est pas juste des politiciens ou des gens qui s'impliquent dans des partis qui peuvent faire de la politique puis en parler, tu sais. Puis, en tout cas, pour faire un parallèle avec ce qu'on mentionnait tout à l'heure avec les médias sociaux, je pense qu'il y a ça de positif, de la décentralisation, de l'accès à l'information, que maintenant, c'est peut-être plus décomplexé que des humbles citoyens qui s'impliquent pas dans des partis politiques. Mettons, moi, je m'implique pas dans un parti politique. Je considère quand même que je fais de la politique dans la vie. Parce que je réfléchis à des questions politiques, même si mon but, ultimement, c'est pas de faire en sorte, ben, présentement, je sais pas que ça va pas changer dans l'avenir, mais présentement, mon but, c'est pas qu'un parti se fasse élire, tu sais. Puis c'est important que le monde se donne le droit de réfléchir à ces questions-là.
Oui, absolument.
Puis qu'il y ait les espaces pour pouvoir le faire. Puis je pense que plus, surtout pour les jeunes, on va avoir d'espaces en personne où réfléchir à des questions politiques sans que ce soit « non, mon parti a raison » ou « non, mon parti a raison », mieux on va se porter en tant que communauté.
Ben oui, c'est ça, la politique, c'est tellement plus large que la partisanerie. C'est, ben c'est, tout les, c'est ça, il y a beaucoup plus de gens qui font de la politique qui pensent. Dès que tu penses le devenir commun de ta société ou que tu veux agir là-dessus, ou juste comment on vit ensemble, comment on, ben, ce qu'on fait en ce moment, déjà, genre, dire, hey, crise de logement, qu'est-ce que c'est ça, comment on peut gérer ou penser ça, ben, c'est une forme de politique, puis c'est accessible à n'importe qui, tu sais.
Ben, accessible. Tantôt, on a utilisé le terme massification, mais moi, je sais pas comment le définir exactement.
Il y a plein de mots qu'on a droppés. Mais c'est ça.
Je sais pas comment on pourrait les redire.
On va sortir un lexique de l'épisode avec des définitions.
On peut faire comme René Lévesque, puis on fait des points de mire. Là, on explique de la vulgarisation sur des tableaux. Là.
Bon, OK. Là, vole pas mon concept. J'avais une chaîne YouTube qui s'en venait, mais...
Ah, ben vas-y.
Ben, je déconne.
Non, mais sérieusement, genre, tu sais, du monde comme Farnell Morissette, mettons, là, qui font de la vulgarisation politique, ou tu sais, des YouTubers, toutes sortes de monde. Ben, let's go. Tu sais, c'est accessible.
C'est important d'en faire.
Ouais.
Mais oui.
Mais tu sais, ça contribue au débat public, puis c'est là où je trouve ça intéressant, tu sais. Moi, mettons, des vidéos de Farnell Morissette, je le trouve super inspirant, mais il y a plein de vidéos avec lesquelles je suis pas d'accord. De la logique qu'il présente. Je trouve que, genre, que ce soit sur le plan de l'argument, pour que ce soit vraiment sur le plan des idées, je suis pas d'accord avec lui, mais je suis contente que ces idées-là existent dans l'espace public parce que c'est un citoyen qui se permet de réfléchir à des questions puis de vulgariser sa réflexion à du monde.
Ouais.
Fait que même si je suis pas d'accord, j'ai envie qu'il continue.
Fait que, ben, peut-être qu'un jour, ça va être toi, la prochaine Farnell Morissette. Ben non, mais je veux pas...
Je suis pas une avocate dans un grand bureau en Angleterre, tu sais, on s'entend là, on n'a pas le même statut.
Non, mais okay, pas dans ce sens-là, je voulais dire dans le sens, genre, tu sais, si tu veux faire de la vulgarisation.
Mais écoute, moi, si je peux lancer un appel à tous et à toutes, si ça vous intéresse de réfléchir à la manière dont le Québec s'organise en communauté, que ce soit sur le plan économique, politique, peu importe, ben l'aile jeunesse du chantier de l'économie sociale, qui est l'organisation non-partisane dans laquelle je m'implique, c'est un peu son objectif. Fait que c'est de faire en sorte que les jeunes, même si dans leur tête, ils se disent « Oh non, moi, la politique, ça m'ennuie ou ça me concerne pas ou je m'y connais pas assez », ta vie est politique. N'importe quand tu te poses des questions sur comment ça se fait que le bus est en retard, il y a une connotation politique. Puis c'est important d'arrêter de gatekeep la politique aux formations partisanes. Donc, si ça vous tente de réfléchir à ces questions-là, rejoignez l'aile jeunesse du chantier de l'économie sociale.
Bon, ben c'est super. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Alexandrine. C'était super, super intéressant. C'est ça, on essaie de penser la question de façon large, puis on voit qu'il y a plusieurs manières de l'aborder, plusieurs thématiques reliés, puis au plaisir de voir la suite. Merci Léopold, merci Cédric d'avoir été avec nous. Merci à tous ceux qui nous écoutent. On se dit à bientôt pour un autre balado.